Bonjour chers amis, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles où Christol Seek et moi-même allons vous présenter une minuscule tranche d'actualité de la bande dessinée étant donné qu'il y a évidemment des dizaines d'albums qui paraissent chaque semaine ou presque et que nous n'en traitons que quelques-uns, pas forcément les meilleurs d'ailleurs, ceux que nous avons chinés, ceux que nous avons reçus, ceux que nous avons demandés et voilà, mais bon an mal an, ça permet quand même d'avoir une bonne image de la bande dessinée contemporaine. Bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Alors, on va commencer avec toi, car tu es pressé, tu es encore en vacances, et il y a donc une bande dessinée qui s'appelle L'Inca Blanc, et qui en fait est le premier tome d'une saga peut-être très nourrie.
Alors, je te remercie, les éditeurs m'écoutant ont dû se rendre compte que je traite souvent de bande dessinée historique, et c'est vrai que je suis attiré par la BD historique, la BD de science-fiction, et d'autres thèmes aussi, hein. Mais toute nouvelle série historique m'intéresse. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de parcourir le tome 1 de l'Inca Blanc. Alors, c'est un thème intéressant, c'est l'Amérique précolombienne, et donc là, en l'espèce, l'Empire Inca, avec l'idée de départ assez, enfin totalement imaginaire, mais pourquoi pas assez bienvenue. On imagine donc que le dernier empereur Inca était un Européen qui serait arrivé au pouvoir, on ne sait pas trop encore comment, on n'est rendu qu'au tome 1. Un Européen aux yeux bleus. Bon, pourquoi pas? Alors, dressons un peu le tableau. On est en 1641 et un explorateur espagnol, pour le compte de la couronne d'Espagne, s'est rendu dans l'équateur, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, mais à l'époque ça avait un autre nom, afin de vérifier si la Terre est ronde. C'est sa conclusion. Et plutôt que de rentrer directement en Espagne après 5 ans d'exploration, il décide de poursuivre encore quelques mois en Amazonie parce qu'il aimerait bien rencontrer les mythiques amazoniennes. Bon, pourquoi pas les mythiques femmes amazones. En fin de compte, assez rapidement, les autochtones lui révèlent qu'il existe au fin fond de la forêt amazonienne encore un Inca. Un empereur Inca qui serait d'origine européenne. Assez intéressé par le sujet, il décide en plusieurs semaines de se rendre compte, de se diriger vers ce village-là. Et il rencontre effectivement dans un village un vieillard blanc devenu aveugle, avec une longue barbe, entouré de jeunes filles autochtones qui doit bien avoir une centaine d'années. Et cet homme, ce vieillard blanc, commence à raconter son histoire. Et ce qui m'a un peu désarçonné, on est rendu au premier tiers de l'album, c'est qu'alors qu'on espérait qu'il raconte son histoire en Amérique du Sud, eh bien ça commence par son histoire en Bavière, puisqu'il est né en 1546, près d'un siècle plus tôt dans ce lieu-là, et il a participé aux guerres de religion dans le camp des protestants. Sa famille a été massacrée par les catholiques, et après elle décide de se venger contre des protestants, et c'est à
C'est
cette
mal.
occasion-là qu'il fuit et qui se dirige en Amérique du Sud. Peut-être que ça a le mérite de nous faire comprendre comment il est devenu, étant pacifiste au début, comment il est devenu un soldat vigoureux, très doué dans les armes. Mais bon, on aurait pu imaginer quelque chose d'autre et ça fait un peu plaquer cette guerre de religion. Mais c'est que le tome 1, peut-être qu'il y aura des explications dans le tome 2, le tome 3. Ce que je regrette, c'est que la suite de l'album, qui se déroule donc en Amérique du Sud, commence à nous montrer les différents peuples qu'il y a, mais pas suffisamment. Ça aurait été plus intéressant que le scénariste, davantage que cela, nous révèle l'identité du peuple Inca. Encore une fois, ce sera pour les deux tomes suivants, mais ça aurait été plus intéressant dès le départ d'intéresser le lecteur par cette présentation de cette culture, de ces identités fortes et de ces religions différentes, plutôt que la guerre de religion que l'on connaît. Ça m'a un peu surpris parce que le scénariste, qui est peu connu, mais que je connais pour certains des albums qu'il a pu faire par le passé, c'est un Vendéen qui s'appelle Serge Perrotin, qui a un parcours assez intéressant. Il faisait des métiers très différents, mécanicien, enseignant au collège. Et puis un jour, à la trentaine, il décide de prendre un temps sabbatique et de partir comme ça au Guatemala pendant plusieurs années. Il parcourt l'Amérique du Sud, il est passionné par tout ce qu'il découvre et revenant en Vendée, il décide d'être scénariste de bande dessinée. Et la plupart de ses récits sont soit tournés vers la science-fiction, c'est sa passion, soit dirigés dans le cadre de l'Amérique du Sud. Et j'avais bien aimé l'un de ses titres paru il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Au nom du Fils, où nous avions un ouvrier des chantiers de Saint-Nazaire qui a le PAC actuel, apprend à la radio que son fils a été arrêté par les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, et décide de partir à sa poursuite, à sa recherche, puisqu'il se rend compte que le gouvernement français ne fait rien. Il laisse totalement à l'abandon ceux qui se sont fait emprisonner par les forces marxistes en Colombie, et il part à sa recherche. Et ce qui est amusant, c'est que le scénariste avait imaginé que son propre fils était parti là-bas après avoir lu Le Temple du Soleil d'Hergé, et voulait lui-même découvrir les vestiges du peuple inca. Donc la boucle est bouclée, on retrouve encore cette idée de vestiges du peuple inca dans cette nouvelle bande dessinée. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres émissions pour les tomes 2, les tomes 3. J'ai déjà, en exposant le récit, présenté un petit peu les qualités, les inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on ne se focalise pas assez, dès le premier tome, sur la culture inca. Pourtant, il y a des choses à dire, hein. Pizarro, il a conquis le royaume, l'Empire inca au milieu du XVIe siècle. Il s'est fait passer pour un dieu de la religion des Incas, ce que les Incas ont cru, et assez rapidement, il a emprisonné l'empereur inca, et puis après, bon, le peuple inca a été éradiqué, soit par des maladies, soit par des guerres intestines entre différents peuples incas, soit par la lutte dans des guerres contre les conquistadors. Et on sait en tout cas que le dernier noyau de résistance, inca, a subsisté jusqu'en 1572. Or là, dans notre récit, on est en 1641, 75 ans plus tard. Et donc, il existe encore un empereur inca qui a disparu de l'histoire. Alors espérons que les tomes suivants nous passionneront. C'est une entrée en matière qui vaut le coup d'être lue, mais qui a quelques petits défauts. Le dessinateur, c'est intéressant de le noter, c'est un dessinateur espagnol qui avant n'œuvrait que dans les comics américains, comme beaucoup de jeunes dessinateurs de la vingtaine, puisque là-bas il y a beaucoup de travail. Il avait quand même fait un album de bande dessinée franco-belge, c'était le Système Solaire, dans la série Le Système Solaire, l'album consacré à Uranus, une série qu'on avait pu présenter dans ton émission. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un style très réaliste et classique, qui convient bien au récit historique, dans la veine des grandes séries des éditions Glénat des années 80, avec une mise en page dynamique. Je réserve mon jugement pour le tome 2 et le tome 3. Et il faut noter aussi que les grandes séries historiques, il n'y en a plus beaucoup parce que les éditeurs maintenant préfèrent sortir des albums faisant directement 100 à 200 pages. Et on imagine que le dessinateur, pendant 2-3 ans, travaille pour sortir un album tous les 3-4 ans. Mais les éditeurs se sont aperçus que le public préfère lire un album achevé de 300 pages plutôt qu'une série et acheter la suite tous les ans. C'est nous, on connaissait ça les années 80. Maintenant, ça se fait de moins en moins, donc on va laisser une chance quand même à cette nouvelle série.
Laissons une chance à cette nouvelle série. Tu as parfaitement raison. Pour ceux qui ont envie d'avoir un point de vue intéressant sur les Aztèques et la présence des Blancs dans la région, je conseille un album qui est paru aux éditions des Trois Cœurs, si je ne m'abuse, consacré à Notre-Dame de Guadalupe, qui est le titre de l'album. Donc, Les Trois Cœurs, Notre-Dame de Guadalupe, où il y a un rappel historique de la conquête de l'Amérique du Sud par les Espagnols, un rappel historique d'ailleurs qui n'est pas excessivement complaisant pour les conquistadors, mais qui remet aussi deux ou trois pendules à l'heure sur la manière dont ça s'est passé et évidemment sur les mœurs des Sud-Américains de souche qui n'étaient pas uniquement des architectes géniaux, mais qui avaient aussi une espèce de rapport au sacrifice humain un peu spécial. Bien, merci beaucoup, Christol, et merci et au revoir, puisque l'affection de tes siens t'arrache à la nôtre, des tiens, pardon, t'arrache à la nôtre.
C'est très joliment dit.
Ouais, la prochaine fois, je ne ferai en plus pas d'erreur dans les pronoms possessifs. Mais merci, et c'est le moment de vous rappeler, chers auditeurs, que vous écoutez Radio Courtoisie. Merci beaucoup, que vous êtes nombreux à nous écouter, qu'il y a des centaines d'heures d'émissions chaque mois, des milliers chaque année, et tout ça multiplié par 40 ans, et que ce petit miracle culturel et politique n'existe que par et pour vous, parce que ce sont vos dons qui nous permettent de continuer à faire vivre cette association, à entretenir les studios, à faire en sorte que le signal soit distribué, sinon sur toute la France, en tout cas de Paris à la Normandie. C'est assez simple. On suit le trajet de la deuxième DB et vous avez à peu près l'ensemble des territoires couverts par Radio Courtoisie. Voilà. Si vous avez envie de nous donner de l'argent, c'est encore mieux. Voilà. Vous êtes moins de 20 000 à le donner, 1 500 000 à nous écouter. Il y a une petite différence. Voilà. 1 ou 2 euros. Voilà. Si jamais vous êtes juste 1 000 ou 2 000 à décider de donner 1 ou 2 euros par mois, ben, faites le calcul vous-même. Vous voyez à quel point ça ne vous coûte pas forcément très cher et à quel point, à nous, ça nous permet d'assurer la survie de cette association. Voilà, je vais vous parler de 2 autres bandes dessinées qui sont en partie autobiographiques, voire totalement autobiographiques. Et l'une raconte les aventures d'un chef qui avait 2 macarons et l'autre raconte les aventures d'un infirmier en soins palliatifs. On va commencer par Oui, chef, un maestro au piano de Florence Sestac et Serge-Antoine Quéron, paru aux éditions d'Argot le 28 août, hein, donc voilà, hier, et qui est dans la veine de ces bandes dessinées biographiques où quelqu'un raconte son parcours de vie. Et là, donc, c'est Quéron, qui a été un grand cuisinier, qui a pris la direction d'un restaurant et qui, en final, qui de pète un peu les câbles, un câble en tout cas, et de fondre en fait ensuite un cabinet de recrutement de talents dans le domaine de la restauration de l'hôtellerie. Voilà. Et donc, il a fini par prendre sa retraite. Et là, il nous raconte en fait comment, depuis la cuisine de sa grand-mère jusqu'au relais routier à la bonne descente, le parcours classique d'un chef cuisinier en France. Alors, il y a un côté assez aimable dans dans l'histoire elle-même. Voilà, ce jeune garçon pas très doué à l'école, à qui sa grand-mère apprend aussi bien à éplucher un oignon, à soigner une brûlure quand on a saisi une poêle trop chaude, à tenir un couteau, à faire un roux. Et donc, voilà, il tombe amoureux de la cuisine. Et peu à peu, sa grand-mère même va l'inciter en fait à s'engager dans la cuisine. Et le voilà qui commence son parcours d'apprentissage avec des maîtres apprentis qui reconnaissent ses talents, le poussent et finissent par l'amener jusqu'à ce qu'il puisse acheter une affaire à Paris et devenir chef, devenir mari, devenir père et donc diriger un restaurant de 50 couverts, la Table d'Oscar, avec d'abord un premier macaron au guide Michelin, une première étoile, donc, et ensuite une deuxième. En parallèle, ce qu'on voit, c'est évidemment la manière dont Antoine Quéron doit avoir 75 ou 76 ans en 2026. Donc voilà, il a dû naître aux environs de 1950. Donc il a fait son apprentissage entre fin 1960 et fin 1970. Non, c'est l'époque où, évidemment, les cuisines sont évidemment bien organisées. Il y a déjà de très grands restaurateurs. Escoffier a fait en sorte qu'on soit parfaitement organisé en brigade. Mais c'est encore les élevages à la dure, les chefs qui beuglent, les coûts qui sont distribués. Il y a évidemment peu de bienveillance, comme on dirait aujourd'hui. Et on n'est pas exactement dans la co-construction d'une proposition gastronomique. On est là pour tourner les sauces et se faire frapper si jamais elles ne sont pas bonnes. Et donc, l'album est évidemment un peu surprenant aujourd'hui avec cette espèce d'élevage à la dure et avec ces chefs qui crient. Et d'ailleurs, le héros lui-même qui prend l'habitude des chefs, c'est-à-dire il est dur avec les autres. Évidemment, il partage son enthousiasme quand il y a des récompenses, mais sinon, au quotidien, voilà, on ne peut pas dire qu'il règne une excellente ambiance dans les cuisines. À côté de ça, voilà, l'histoire de l'évolution du métier, le regard qu'on porte sur lui, c'est intéressant. Ce parcours, évidemment raconté d'une manière un peu drôlatique, puisque c'est Florence Sestac qui est aux manettes, est intéressant. Mais il y a un énorme défaut, c'est le dessin de Florence Sestac. C'est juste pas possible. Voilà, c'est Florence Sestac, c'est celle qui crée avec Étienne Robial dans les années 70, au tout début, Futuropolis, donc qui est d'abord une librairie, qui devient une maison d'édition, une maison d'édition qui publie des albums importants, qui est aussi une maison d'édition qui commence à publier la collection Copyright, où on redécouvre tous les comics américains des années 30 et 40. Donc, des connaisseurs de bande dessinée, d'ailleurs, qui se forment peu à peu, et qui, Robial deviendra le directeur artistique de Canal+, et bon, à un moment donné, Robial et Florence Sestac se séparent, surtout parce que Étienne Robial a trompé sa femme pour en prendre une plus jolie selon ses goûts, et en tout cas plus jeune, selon l'état civil. Et Florence Sestac, qui avait une petite œuvre déjà derrière elle, ou une œuvre importante pour ceux qui l'apprécient, à base de gros nez et d'un dessin quasiment caricatural, va se lancer avec succès dans un album qui va assurer ça, quasiment une seconde carrière, qui c'est Le Démon de Midi, qui paraît en 1996. Et Le Démon de Midi, voilà, raconte en fait sa propre histoire. Donc, Le Démon de Midi, et après aussi, elle racontera Super Cato sur un scénario de Pétillon. C'est quelqu'un fondamentalement marqué par 1968, très libertaire. Elle a aujourd'hui 77 ans, donc elle a quasiment l'âge de Cayron. On est vraiment dans, d'une part, une espèce de haine du franchouillard. On est d'ailleurs chez des gens qui n'hésitent pas à employer le mot franchouillard. Et la bande dessinée de Sestac est toujours très dynamique, mais avec un trait si sommaire, avec un lettrage si énorme, que véritablement le dessin a peu d'intérêt, voire même est parfois pénible. Il y a une vivacité certainement dans les cadrages. À côté de ça, c'est un parfait gaufrier, c'est-à-dire chaque page est sur un calibre de 3 x 3 cases, avec parfois deux cases confondues, ce qui fait qu'on passe de 9 cases parfois à 8 cases, 7 cases variant. Mais très peu d'efforts de mise en page, surtout donc un jeu sur les plans, des personnages qui se ressemblent quasiment tous et qui sont laids. Il y en a pas un qui est joli, au moins c'est ni elle quand elle se met en scène, ni ses camarades. Et donc la jolie fille comme le laidron, l'Apollon comme le moche, ont tous la même tête, des gros nez, des dents proéminentes. Et c'est absolument insupportable de voir qu'une bonne histoire est, pardonnez-moi le terme, mais quasiment gâchée par le dessin. Donc Florence Sestac, c'est vraiment un dessinateur dont je ne supporte pas le dessin, même si, voilà, Oui Chef a un intérêt, sinon historique, du moins anecdotique, dans la description d'un parcours d'un cuisinier. Et évidemment, c'est censé être l'histoire d'Antoine Cayron. Alors, on ne sait pas quelle est la part autobiographique et quelle est la part romancée. On sent malgré tout que ça a été vraiment nourri par les souvenirs d'un homme de l'art qui a lui-même donc participé à cette épopée de la cuisine française. Voilà. Premier album, j'en ai parlé un peu longuement par rapport au prix que j'y attache. Deuxième album, tout à fait surprenant, signé de L'Homme étoilé. L'Homme étoilé est un infirmier en soins palliatifs qui mesure plus d'1,90 m et qui est basé en Belgique et qui, au fil des albums, nous raconte des histoires de soins palliatifs, autrement dit, raconte des histoires de gens qui découvrent qu'ils vont mourir, qui se retrouvent en hôpital ou en institut spécialisé et à qui L'Homme étoilé va apporter le réconfort de sa présence, de ses questions. Ça fait c'est le quatrième album que je lis de la part, enfin, dessiné par cet auteur. C'est à chaque fois très surprenant, d'une part parce que le dessin est assez sommaire, mais avec des couleurs joyeuses. Et L'Homme étoilé met surtout en scène des dialogues, et des personnages, et donc des personnages qui sont parfois, si j'ose dire, sans intérêt immédiat, juste un malade qui finit par rencontrer humainement, psychologiquement, spirituellement L'Homme étoilé. Alors pourquoi l'homme étoilé, ce pseudonyme un peu grotesque, qui s'appelle Xavier, on ne connaît pas son nom de famille, mais il a des étoiles tatouées, donc vous imaginez un type d'1,93 m, avec une barbe et des cheveux longs, façon viking, deux ou trois piercings, et qui à côté de ça a l'air d'être un excellent infirmier en soins palliatifs. Toutes ces histoires ont une qualité humaine assez surprenante, donc là aussi il faut savoir passer par-delà le dessin. Ce qui est intéressant dans Le Soleil va se lever, un reportage dessiné sur le deuil, qui est le premier tome d'un diptyque, c'est que l'homme étoilé, donc à force de côtoyer la mort, finit par se dire bah, ce qui serait intéressant, c'est que j'aille rencontrer d'autres personnes qui, elles aussi, traitent de la mort. Par exemple, Christophe Fauré, psychiatre, qui a écrit des livres sur la manière d'assumer son deuil. Stéphanie Sounac, thanatopractrice, autrement dit quelqu'un qui prépare les morgues, fait leur toilette mortuaire pour qu'ils aient le meilleur des aspects possibles. Vanessa Mayer, qui est doula de fin de vie, autrement dit, elle accompagne, ce n'est pas une soignante, c'est une doula comme celle qui accompagne les jeunes mères dans la maternité. Et Sarah Dumont, qui est une médium. Voilà. Et donc, on est absolument surpris par les différentes personnalités qu'ils rencontrent. Et à chaque fois, c'est un véritable reportage, en fait. Et c'est une conversation entre quelqu'un qui fréquente la mort très souvent et qui dit, d'ailleurs, à un moment donné, il ne s'agit pas de rajouter des jours à la vie, il s'agit de rajouter de la vie au jour pour décrire son métier d'infirmier en soins palliatifs. Et donc là, entre une médium qui lui parle, sa femme, cette thanatopractice, practrice qu'on voit soigner une vieille dame, et qui donc manipule des cadavres à longueur de journée, mais qui a peur des araignées, on découvre donc un rapport à la mort qui est tout à fait saisissant. L'album a ceci de remarquable, c'est qu'il est joyeux. D'ailleurs, c'est assez amusant. Ça s'ouvre sur un dialogue avec l'éditeur, à qui l'homme étoilé, tout fier, vient lui dire « On va consacrer une somme monumentale à la mort et je te promets que je vais dessiner des albums qui font 240 pages. On ne parlera que de deuil du début à la fin. » Et on sent l'éditeur un peu mi-figue, mi-raisin à l'idée de véritablement se lancer dans une entreprise qui, même pour Le Lombard, donc l'éditeur historique du journal Tintin, paraît être peut-être un peu casse-gueule dans la rentabilité financière qu'on peut en attendre. L'homme étoilé, donc une fois plus indépendamment de son dessin un peu sommaire, a un vrai talent de narrateur, un vrai talent de scénariste pour mettre en scène ses dialogues, et surtout il a un goût de la rencontre avec l'autre qui transparaît, et il nous entraîne dans ces univers un peu spéciaux, du deuil, de ceux qui imaginent des cafés où les personnes en deuil viennent se rencontrer et discuter chacune de la manière dont elles vivent leur deuil. Donc, ce sont des pratiques actuelles tout à fait surprenantes. Voilà, Christophe Fauré, le psychiatre, Stéphanie Sougnac, thanatopractrice, Sarah Dumont, journaliste qui se forme à l'accompagnement du deuil et crée Happy End, donc les apéros de la mort. Voilà, le nom est un peu surprenant. Vanessa Mayer, donc la doula de la fin de vie, et Florence Hubert, qui est médium à Angers et qui pratique le nettoyage des lieux, anime des conférences et a publié un ouvrage qui s'appelle « Mon guide et moi » où elle raconte comment elle se réincarne depuis le XIIe siècle. Donc, tout n'est pas absolument cachère, si j'ose dire, et donc certaines personnes sont véritablement surprenantes, mais on est à chaque fois surpris, intéressé, embarqué dans le récit. Et évidemment, cette question du deuil est passionnante, cette question de la souffrance aussi. Le fait que ce soit traité par un infirmier en soins palliatifs qui a commencé par dessiner ses aventures d'homme étoilé pour raconter les conversations qu'il avait avec les soignants, avec les patients, avec la famille, avec les aidants, avec tout le monde en fait, avec tout le personnel médical et non médical qui peut défiler au chevet de quelqu'un qui est en soins palliatifs, c'est véritablement une expérience humaine tout à fait intéressante. D'ailleurs, le fait de lire cet album alors que la loi sur la fin de vie est passée, alors que l'euthanasie va sans doute remplacer les soins palliatifs qui n'ont jamais été développés en France comme il avait été prévu qu'il le soit et comme une loi exigerait qu'il le soit, exige d'ailleurs qu'il le soit, c'est évidemment un moment intéressant. Et le tome 2 promet d'être à peu près aussi intéressant puisque, par exemple, il ira rencontrer Irène Combre, accompagnante du deuil animalier, l'association Au-delà des nuages, photographie d'anges, et l'autre rive, pompe funèbre, etc. Alors, je me suis dit, après avoir lu cet album, où j'ai vraiment été tout à fait surpris par le fait d'être intéressé par ce qu'une médium pouvait me raconter ou parce qu'un psychiatre très médiatique pouvait apporter sur le deuil, avec vraiment à chaque fois une perspective une fois plus revigorante, si j'ose dire, sur cette question. Et je suis allé regarder Au-delà des nuages, photographe d'ange. Et en fait, ce sont des gens qui, lorsqu'ils savent que l'enfant à naître n'a que très peu de jours à vivre, se dépêchent de faire venir des photographes professionnels ou des amateurs extrêmement éclairés pour prendre des photos de l'enfant et faire en sorte d'en garder une trace et que cet enfant mort-né quasiment, ou en tout cas trop vite et si vite disparu, ne soit pas oublié et rangé au souvenir des mauvais au rang des mauvais souvenirs dont on ne parle pas. Il y a une volonté de parole qui est tout à fait intéressante. Il y a une capacité à mettre en scène cette parole qui est vraiment remarquable. Et une fois de plus, voilà, passer par-delà le dessin, qui d'ailleurs, si ça se trouve, ce sont uniquement mes préventions, et vous trouverez ce dessin rond et un peu sommaire tout à fait aimable. Et n'hésitez pas à lire Le soleil va se lever, un reportage dessiné par le deuil de l'homme étoilé aux éditions du Lombard, et d'ailleurs, profitez-en pour regarder ces autres bandes dessinées. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode de Planche, Cases et Bulles, et nous avons bien sûr rendez-vous la semaine prochaine avec Christol Seyek pour vous parler de l'actualité de la bande dessinée.